Que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais, en toute simplicité, vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je le crois, et en tenant devant lui. Et je voudrais vraiment réclamer toute votre attention pour les 20-25 minutes à venir, de manière à ce que le temps que nous passons ensemble, sous le regard de Dieu, dans la présence de Jésus, selon sa promesse, et bien que ce temps nous soit favorable, aussi bien pour le salut de notre âme que le relèvement de notre corps, de notre manière de penser, de tout ce qui est en nous et que Dieu veut changer. Voilà, j'aimerais vous commencer ces moments en vous posant une question. Est-ce que vous avez lu la Bible pour certains, peut-être que deux personnes découvrent l'Évangile ce soir, mais est-ce que il vous est arrivé de voir Jésus ne pas répondre à une question qui lui était posée devant Pilate, oui? Et pourquoi, à votre avis? Je veux dire, en ayant regardé un petit peu la question, finalement, Jésus n'a pas, occulté toutes les questions qui lui étaient posées. Il a répondu à la majorité des questions qui lui étaient posées. Malheureusement, pour les gens qui étaient orgueilleux en face de lui, qui ne voulaient certainement pas entendre les réponses vraies qu'il avait à donner, le Seigneur est resté silencieux. Mais dans la plupart des cas, le Seigneur a répondu aux questions qui lui étaient posées. Et c'est une bénédiction pour nous parce que dans bien des situations, aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de ces réponses. Je pense notamment à la réponse de Thomas. Mais des questions qui ont été posées au Seigneur, mais qui sont là et qui nous font du bien. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », lui dit Jésus. Et nous parlions de ça avec les enfants dans la voiture en venant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Qu'il est bon de connaître ça, d'expérimenter le fait que Jésus est le chemin. Dans cette vie ici-bas, sur cette terre, Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Si nous avons les yeux fixés sur lui, sur son enseignement, nous ne risquons pas de défaillir, de suivre une mauvaise voie. Voilà une question. Et j'ai promis de faire court. En tout cas, il y a une question qui va nous concerner ce soir. Et cette question, elle est posée par un homme dans la Bible. Dans les évangiles, un jeune homme, il est dit « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Je vous invite à ouvrir votre Bible au chapitre 18 de l'évangile de Luc, au verset 18. Vous pardonnerez, ça sera l'occasion pour les pasteurs de répondre à des questions, certainement, puisque je vais faire court. Et il y a des points qui mériteraient vraiment d'être étudiés, d'être médités, mais on va se concentrer sur l'essentiel ce soir. On va aller dans Luc au chapitre 18, on va lire deux passages bibliques. On va lire deux passages, Luc 18 et Luc 19, pas entièrement, mais pour ce qui nous concerne. Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Et cette question, elle nous est posée ce soir. Et il y a une urgence à répondre à cette question. Dans la Bible, il est souvent question de l'éternité. Et nous ne serons pas surpris de voir que même dans l'Ancien Testament, il est déjà question d'éternité. Et dans la Genèse même, il est question d'éternité. Au chapitre 3 et au verset 22, je l'ai écrit, ne le cherchez pas. C'est Dieu qui parle. Et voici ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, un petit peu plus loin, empêchons-le, maintenant il parle de l'homme, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Il est la question de l'éternité. L'éternité a été fermée à l'homme à cause du péché. Et voilà que dans les évangiles, un homme se pose cette question, il vient vers Jésus et nous lisons cette histoire. Luc 18, verset 18. Un chef, dans un autre passage, il y dit un jeune homme. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste. Dans une autre version, dans un autre évangile, il est écrit, il était affligé. Il fut affligé de ce que Jésus lui dit cela. Car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent : Et qui peut être sauvé ? Jésus répondit : Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On tourne la page pour certains. Nous allons directement au verset 1 du chapitre 19. Il est là aussi question de quelqu'un qui va faire une rencontre avec Jésus. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Je vous disais en introduction que la question de l'éternité est une question qui est urgente de se poser. Et vous me direz, dans ce monde actuel, c'est un peu compliqué de se poser cette question. Mais non. Il est écrit dans l'Ecclésiaste, un autre livre de l'Ancien Testament, Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Et je le crois. Bien souvent, je l'ai nié avant de connaître Jésus. Je crois que quand on est seul, vraiment seul, nous passons tous par ces moments où nous nous interrogeons sur le « qu'est-ce qu'il y aura après la mort ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Et tout ce qui fait que je suis ce que je suis, et tout ça va disparaître ? Et qu'est-ce que tout ça va venir ?» Et la Bible répond à cette question. Et Jésus répond à cette question. Dieu répond à cette question. Il y a une vie éternelle avec Dieu. Et il y a une vie éternelle qui sera sans Dieu. Et il est urgent de se poser la question. Nous voyons là que, pourquoi ? Il me semble, selon deux raisons, pour le peu de temps que j'ai pu, pour y méditer, deux raisons vraiment importantes. D'une, les temps que nous traversons, les circonstances que nous traversons actuellement. Même si quelqu'un ne se pose pas la question de l'éternité, je pense qu'il est, il ne peut être, comment dire, interpellé par ce qui se passe. Des accidents ici et là, des vies enlevées, presque gratuitement, des choses qui arrivent, non pas par hasard, des accidents, plein de choses négatives, les maladies qui frappent subitement. Avec l'âge, on se rend compte de certaines choses, de cette vie qui passe vite, qui file entre les doigts. Et qu'est-ce que je vais devenir ? Et qu'est-ce que j'ai fait ? Et etc., etc. Plein de questions se posent à nous. Les circonstances nous amènent à nous poser la question de l'éternité, de notre vie après. Et puis, une raison plus importante, il y a le verdict de Dieu sur notre vie. Il est dit dans Hébreux, un autre livre de l'Évangile, une épître. Hébreux chapitre 9, verset 27, ne le cherchez pas, je le lis. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de ne mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ce jugement suppose qu'il va y avoir une vie après. En tout cas, nous le voyons bien, nous le réalisons. Il va y avoir un jugement après la mort. L'homme va mourir une seule fois, l'homme, la femme, lui réservé que de mourir une seule fois. Après vient un jugement. Un jugement pour le bien, selon le choix que nous aurons fait ici-bas, ou un jugement pour l'opprobre, la honte éternelle, comme il est écrit dans un autre passage de la Bible. Alors, quelle sera notre réponse face à ce questionnement, face à ce jugement, face à cette question, qu'en est-il de mon éternité ? Cette question, elle se pose à tous, moi le premier, croyant ou pas croyant, toujours cette question se pose à nous, qu'en est-il de mon éternité ? Est-ce que je vais être sauvé ? Est-ce que je suis sauvé ? Ou est-ce que je ne suis pas sauvé ? Et c'est la parole de la Bible. Il n'y a que deux voies, il n'y a que deux chemins, il n'y en a pas 10 000. Il n'y aura pas de moyen de, comment dire, de réaliser, comment dire, une quelconque repentance par la suite, après sa mort. Le choix se fait maintenant. Et nous sommes là confrontés à deux personnes qui sont face à Jésus. Le premier, vous connaissez cette histoire, peut-être certains ne la connaissent pas, c'est le jeune homme riche. Et ça mériterait que nous puissions le lire dans d'autres passages, mais pour ceux qui le veulent, cette histoire est relatée dans Matthieu au chapitre 19 et dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Et nous voyons avec un peu plus de précision qui était cet homme. Dans Marc, il est dit qu'il s'est approché de Jésus en se jetant à genoux devant lui. Il s'est approché de Jésus en se jetant à genoux. Il s'est rendu compte qu'il y a là quelque chose dans son cœur qu'il n'avait pas et qui était urgent de régler. Urgence de régler cette question de l'éternité. Alors qu'il connaissait la loi, c'était un juif pieux. Il avait grandi dans la loi, il a répondu à Jésus. J'observe ces choses depuis ma jeunesse, a-t-il dit à Jésus. Mais il se jette à genoux, il s'humilie. Et il demande à Jésus de répondre à sa question. Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Cette approche, elle est bonne, non? C'est déjà une bonne approche. Beaucoup, déjà, pourraient dire, mais Jésus, je m'en fiche, etc., etc. Jésus, il n'a pas existé. Mais lui, il s'approche de Jésus et il lui dit, maître. Pour qu'un juif pieux dise à quelqu'un, maître, il fallait vraiment qu'il réalise que Jésus était vraiment quelqu'un de puissant devant l'éternel. Et il s'approche de la bonne manière. Il est humble. Il veut réellement faire une démarche avec Jésus. Il veut vraiment avoir cette réponse à cette question. Il sait que Jésus seul peut lui donner cette réponse. Et il est dit dans d'autres versions de ce texte, dans Matthieu, dans Marc, il dit que Jésus le regarda et l'aima. Il a regardé cette attitude de ce jeune homme. Il l'a regardé, il l'a aimé. Et nous savons, bien que je n'ai pas le temps de développer, nous savons que l'amour de Jésus envers l'homme, envers la femme, envers sa créature, n'est pas un amour humain, simplement. Parfois, nous pouvons défaillir dans notre façon d'aimer. Mais l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. C'est un amour qui s'est manifesté d'une façon extraordinaire. À savoir que Jésus, qui était dans son ciel de gloire, a abandonné son ciel de gloire, il s'est fait homme. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Il a marché sur cette terre et il a décidé de prendre nos péchés sur lui afin que nous, en retour, nous puissions, par la foi en lui, recevoir la vie. Et donc Jésus a été crucifié et il a accepté ce sacrifice. Nous l'avons chanté, torrent d'amour. Mais il est ressuscité, Et c'est pour cela que nous pouvons avoir confiance, nous pouvons mettre notre foi aujourd'hui, en 2013, en lui. Et Jésus le regarda et l'aima. Et c'est de cet amour que Jésus l'a aimé. Cet amour qui voulait le sauver, répondre à cette question. Parce qu'il y avait un besoin urgent dans son cœur. Jésus l'aima, Jésus voulait le sauver. Et cet amour qui exprime le salut en Dieu seul. Mais la suite ne va pas se dérouler comme nous, on aurait aimé que ça se déroule. Malheureusement. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus nous connaît, on l'a chanté. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Et le cœur de cet homme était occupé par quelque chose qui prenait la plus grande place dans sa vie, ses richesses. Il était inquiet pour ses richesses. Beaucoup de biens, c'est beaucoup de malheur parfois. Beaucoup de temps, beaucoup d'inquiétudes. Et son cœur était pris par ça. Et Jésus va lui donner une réponse catégorique. Vends tout ce que tu as. Après, suis-moi. Viens et suis-moi. Voilà ce que Dieu te demande pour recevoir la vie éternelle. Voilà ce qui manque. Voilà ce qui manque à ta vie. Tout donner, renoncer, abandonner entre les mains de Dieu ce qui te semble impossible à abandonner. Et bien sûr, j'avance, hein, je donne les clés. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Les disciples vont dire, mais comment être sauvé? Puisque, c'est comment faire? Le prix à payer est cher. Et Jésus va dire, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et nous voyons là que le jeune homme riche, cette question qui l'a amené à être à genoux devant Jésus-Christ, cette question qui était vraiment pesante sur son cœur, a été annihilée par la valeur de l'éternité à ses yeux. L'éternité à ses yeux ne coûtait pas plus.